Bonjour à toutes et à tous, les chroniques financières sur CFM Rhodes, c'est toutes les semaines et proposées par Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David.
Steve, on le rappelle, conseiller financier.
C'est ça.
ICA Finance dans le centre-ville de Rhodes et après avoir bourlingué à travers la planète finance pendant quelques années.
Oui.
Pas mal d'années, hein, mais bon.
Oui.
ne rentrons pas plus dans les détails.
Ça vaut mieux.
Sur cette chose-là. Alors, cette semaine, Steve, tu as eu envie de parler de, je cite, le financement de la BITD, base industrielle et technologique de défense. Alors,
exactement.
J'ai envie de dire. Non, on va pas aller tous aux abris, mais il va quand même falloir que tu nous expliques de quoi il s'agit, parce que c'est quoi ce truc-là?
Eh bien, en fait, c'est tout ce qui concerne en fait le financement. Alors, c'est surtout des PME et des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, qui travaillent dans le secteur de la défense.
D'accord.
Donc, comment c'est structuré, en fait? Ben, en France, tu as quelques très grands groupes de taille internationale qui prennent en fait le lead dans tout ce qui est programme d'armement, etc. etc.
Donc, on en connaît quelques-uns, des grands noms.
Dassault, Thales, Safran, Naval Group, tous ces gens-là.
Ouais.
Pour lesquels, évidemment, il y a assez peu de problèmes de financement parce que ben, les banques, quand elles vont financer des contrats, sont de très gros contrats en général. Donc,
ouais.
Chacun y trouve son compte.
D'accord.
En revanche, pour la BITD, donc en fait, qui est toute la chaîne aussi de tous les prestataires, les intervenants, voilà.
Donc le mec qui fabrique une des pièces qui rentre dans un gros truc dans une petite entreprise dans le centre de la France, oui.
Lui, c'est plus compliqué, en fait.
Ça peut être plus compliqué.
Ça peut être plus compliqué. C'est plus compliqué pour un certain nombre de raisons. Et donc, je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est important, parce que c'est un sujet régalien. Et on entre dans un monde qui devient de plus en plus complexe de ce point de vue-là. Et je trouve que la finance a quelque chose à apporter là. On devrait être capable en fait de surmonter un petit peu les difficultés pour intervenir dans la chaîne de financement.
Alors on rappelle que l'armement pour toi est un des secteurs dans lequel tu conseilles d'investir toujours à long terme, toujours pas tout son argent, hein, une partie ce qui concerne
voilà, tout ce qui tourne autour de la défense.
Oui, de la défense.
C'est un petit peu plus large, effectivement.
Ouais. Oui, parce que satellite, c'est pas vraiment forcément armé, mais ça peut être de la défense, d'accord. Et alors donc déjà, il y a cet aspect-là des choses. C'est pour toi un secteur qui d'avenir. Mais alors, ça m'amène forcément un peu à l'aspect moral, quand même, Steve. Parce que là, tu parles de ces entreprises qui peuvent avoir des difficultés de financement, mais en fait, chacun, toi, et puis des personnes qui ont un peu d'épargne, qui vont investir, elles pensent que c'est leur argent.
Voilà. Oui, non, mais tout à fait.
Donc, il y a quand même des questions qu'il faut poser. Donc, toi, il n'y a pas de problème, l'armement, écoute, c'est comme des petits pois, on y va.
Il faut quand même bien différencier l'armement conventionnel qui est autorisé d'une partie de l'armement qui n'est pas du tout autorisé, comme les mines antipersonnelles, tout ce qui est guerre bactériologique, tout ça. Ça, il y a des conventions internationales qui encadrent ces choses et qui interdisent un certain nombre de choses. Donc là, on ne parle pas de ça. Ça, tout le monde est d'accord. Que voilà, il n'y a pas à intervenir là-dessus.
Mais sinon, même, tu sais, là, d'accord, parce que j'ai envie de te dire, encore heureux, Steve.
Mais oui. Non, bien sûr, ouais.
Bah, la loi, quoi, déjà, telle qu'elle soit, mais la loi, de toute façon. Bon. Mais il y a des gens qui se disent, non, moi, jamais j'investirais chez un fabricant d'avions, de missiles, ça tue des gens. Non, je préfère investir dans autre chose.
Oui, non, mais ça s'entend. Ça, d'accord. Ce sont des convictions, très bien. De toute façon, ça se relie.
Parce qu'on va encore dire, ouais, mais la finance, tu vois, ils n'ont rien à foutre. Du moins que ça rapporte, on y va.
Oui, après, alors. Oui, mais j'ai envie de te dire, malheureusement, le monde étant ce qu'il est, c'est quand même une fonction qui est indispensable, comme on le voit actuellement, avec ce qui se passe en Ukraine essentiellement, mais il n'y a pas qu'en Ukraine. Donc voilà, il y a quand même un besoin vital d'avoir une armée et d'avoir en fait un équipement qui est de plus en plus complexe, de plus en plus long à développer et de plus en plus cher à financer.
Donc, alors quand tu parles de ces financements, tu parles de problèmes pour ces entreprises pour se financer ou pour n'importe quel épargnant ou petit investisseur pour investir dans ces boîtes-là parce qu'il n'y a pas trop de possibilités?
Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai envie de dire les deux, voire même les trois.
Ah.
Alors, premièrement, effectivement, pour ces entreprises, c'est un problème pour se financer. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, les banques, que ce soit les banques ou même les sociétés de gestion de portefeuille qui rachètent des actions dans ce domaine-là, elles sont sous le coup d'un risque réputationnel. Et ça.
Ah bah tu vois.
Eh oui, les banques n'aiment pas ça.
On y revient. Voilà. On y revient.
Donc tu prends des banques, des très grandes banques, hein, HSBC, Crédit Mutuel, tout ça, ils ont tous en fait une sorte de comment dirais-je,
circus.
De procédure,
ah, ouais.
En disant voilà, quand tout ce qui touche à l'armement, certaines banques sont extrêmement restrictives comme HSBC. Hein,
ah
où
bon.
Là, c'est
ah
on
bon.
Finance pas.
Parce que HSBC, par ailleurs, dans d'autres domaines, ils se gênent pas.
Oui, et ça, on pourrait revenir, hein, surtout que. Mais bon,
mais
en l'occurrence, là,
ah
voilà.
Ouais, écoute, c'est bien.
Et puis, ça, alors ça, c'est systématique, tu vois, toujours dans ces procédures-là, mais ça, c'est ce qu'on disait, c'est complètement normal. Il y a une distinction fondamentale entre l'armement conventionnel et le reste. Mmh. Donc là, le reste, on n'y touche pas. Très bien. Et l'armement conventionnel, voilà, on regarde, mais c'est extrêmement encadré. C'est extrêmement encadré parce que c'est pas un secteur économique lambda. Mmh. Il y a énormément de réglementations, d'autorisations. Voilà.
Et puis c'est... là aussi, c'est peut-être aussi à qui on vend ou c'est pour
exactement.
Quelle transaction, dans quelle direction,
fait.
Vers où.
Et ça redit en fait tout ça, tout ça en fait influe sur la perception du risque réputationnel pour les banques.
D'accord.
Je te rappelle au passage que sur cette partie risque opérationnel, tu as un certain nombre d'ONG en fait qui appuient souvent là où ça fait mal et qui n'hésitent pas à faire ce qu'on appelle du name and shame. Donc, ils disent, voilà, telle banque finance des marchands d'armes, etc., etc. Donc, ça, évidemment, la banque n'aime pas trop ça, ce que je comprends tout à fait. Mmh. Voilà. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir que derrière ces ONG, certaines ont des motifs légitimes et d'autres sont plus ou moins téléguidées par des États compétiteurs ou des intérêts intérêts qui ne sont pas les intérêts de la France, on va
voilà,
dire.
Ouais, ouais. Voilà. Soit des États concurrents, soit qu'il y ait une concurrence commerciale parce qu'on fait les mêmes choses dans l'autre pays,
oui.
On préférait que ce soit plutôt que nous, soit pour des raisons politiques. Oui, mais ça, c'est
voilà. J'avais dit, ça, c'est le jeu des nations.
Ouais, c'est une bonne guerre.
Ouais, c'est effectivement de bonnes guerres. Mais en fait, il faut quand même savoir. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre ce que font ces mêmes ONG ou ces mêmes fonds dans leur marché domestique.
Ah, bah oui.
Et à l'extérieur.
Ah oui.
Voilà, tu vois.
Bah oui.
Donc, il y a, je pense, en fait, une prise de conscience là. Et alors, il y a un très bon rapport, je crois, du Sénat qui est sorti au mois de mars cette année, qui décortique un peu tout ça et qui donne, en fait, des pistes pour pallier donc, à toutes ces problématiques de financement.
Parce que le financement... Alors, ce premier point, Steve, je comprends ce que tu me dis, je te crois. Mais moi, ce que j'ai entendu à la télé encore là, il n'y a pas longtemps, là, la France, elle n'a jamais vendu autant d'armes. Donc, c'est que ça va, quoi. Un, on en produit. Deux, il y a des gens pour financer les ventes, les prêts.
Mais pour les très gros, on vend des avions, on vend des Rafales, on vend des équipements en fait, de très haute technologie où ce sont des contrats en fait, avec de très gros montants. Ça, les banques, en fait, elles trouvent leur compte. Pourquoi ? Parce que oui, elles prennent un risque de réputation. En revanche, elles vont être largement payées pour prendre ce risque-là.
Ouais.
Et elles se disent, pour les gros, aucun problème, je suis prêt à prendre le risque parce que je suis payé. En revanche, pour les plus petits contrats, là, c'est très asymétrique parce que le niveau de risque réputationnel, il est le même, mais eux, enfin les banques vont gagner beaucoup moins.
Oui, oui,
et là, c'est stop. Problème, c'est que pour toutes ces plus petites entreprises et ces petits contrats, on a quand même besoin des marchés export parce que ça coûte énormément d'argent à développer. Et souvent, la commande publique ne suffit pas ou n'est pas au rendez-vous. Ouais. C'est trop complexe. En fait, parce que la commande publique souvent passe par les très grands groupes et ça ensuite, ça filtre jusqu'aux plus petits fournisseurs.
Oh, voilà. On voit même pour les voitures, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de marque nationale. T'es obligé,
donc,
n'importe quelle marque est obligée de vendre dans d'autres pays pour...
Exactement.
Pour
et en plus, donc, c'est un double problème.
Imagine les chars.
Oui, c'est un double problème parce que maintenant, en fait, voilà, comme on essaie de tout produire localement, parce que justement, quand on achète des composants à d'autres pays, aux États-Unis en particulier, ils peuvent nous coincer avec les réglementations ITAR et autres. Donc, qui permettent de bloquer à chaque fois que tu as un composant américain dans
dedans,
ils peuvent te bloquer à l'export.
Ouais, ils peuvent te dire non, pas ce pays-là, nous on ne veut pas que notre processeur il
exactement,
est là-bas.
Exactement. On a eu le cas avec la vente de Rafale à l'Égypte où sur les missiles embarqués, il y avait un composant américain et on a dit non. Ils ont dit non. Donc, voilà, tout ce genre de problème. Et ça pèse aussi, évidemment, sur toute la problématique de financement.
Mais alors, ces entreprises, parce que j'imagine pas toute petite entreprise de défense en France, qu'est-ce que t'appelles petite ? C'est des entreprises moyennes.
C'est des entreprises...
Parce que tu te lances pas derrière, on va fabriquer du canon à deux.
Non, mais par contre, tu vois, il y a toute cette problématique de financement aussi des startups qui sont dans le secteur de la défense.
Ouais.
Et là, problème, c'est qu'il n'y a pas en face de moyens pour les financer. Parce que si tu veux, quand tu regardes l'épargne privée,
oui.
Bon, c'est déjà un, il y a un problème de risque. Hein, donc dans ce rapport-là, il disait que je crois que sur les livrets A, il y a à peu près 500 milliards d'euros qui dorment. Ok. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de faire. Donc il y avait un livret A qui sert à financer en principe le logement social.
Oui.
T'as le livret de développement durable et solidaire, mmh. là c'est plus pour toute la partie environnementale. Mmh. Et une idée du rapport, c'était de créer un livret défense pour participer au financement. Oh
ouais, non mais là t'imagines le scandale. Financer le logement, c'est le truc du livret A. Bon, ça c'est mon théorie, parce qu'en pratique...
c'est ça.
Voilà.
Ça finance bien.
Il en manque vachement. Ça c'est sûr.
Donc tu vois le truc.
L'environnement, le livret environnement durable, bon, c'est bien, ça rapporte des intérêts, mais, pour rien. Mais concrètement, t'as l'impression que je vois pas la différence. Hein,
mais c'est exactement
bon.
Ça.
Et alors, après on dirait, bon, mais enfin quand même, c'est déjà bien. Mais il y aurait d'autres sujets peut-être avant l'industrie de défense. Même pour les Français, le français moyen, dire attendez.
Non mais je pense que alors, dans le même
parce
rapport,
ça,
il y avait
comme c'est un avantage fiscal, ça veut dire où ça a un intérêt un peu mieux que d'autres trucs.
Exactement.
Ça veut dire que l'État il est là et qui, je te dirais moi, que l'État au nom de l'État on avantage les industries de défense en France. Pourquoi pas le foot, tu vois.
Oui, sauf que tu auras bien du mal à te défendre. Mais en fait, si tu veux encore, ça touche toujours au sujet du régalien. C'est toujours la même chose en fait. Depuis la nuit des temps, si t'as pas une armée forte,
pour faire un livret éducation, ou livret santé.
Oui, mais tu pourrais le décliner sur plein de thèmes, hein, effectivement. Ouais. Mais la problématique ici, c'est que tu touches quand même potentiellement à l'intégrité de la nation, etc. C'est des choses quand même qui peuvent nous toucher tous.
Ouais.
Là, effectivement, on se dit, oh bah tiens, oui, ça fait 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre en Europe. Ça y est, c'est fini. On en a une qui n'est pas très loin. Il y a quand même... En Méditerranée, par exemple, des pays qui commencent à devenir de plus en plus vindicatifs. Donc, là aussi, il va falloir faire attention. Parce que la Méditerranée, c'est toujours été plus ou moins une poudrière. Hein.
Ouais, donc, ouais, mais on ne va pas faire la guerre à chaque fois.
Ah ben, j'espère pas.
Ah bah ouais, moi non plus.
Mais justement, ce qui t'intéresse, c'est qu'il faut quand même se préparer.
Ouais, mais t'as des armes, puis tu vas avoir tendance à te dire, bah du coup, je suis plus fort que l'autre, allez, je m'en fous, on y va. Non,
Non, je pense. Alors nous, en fait, là, pour le coup, on a quand même, la France a quand même une armée exemplaire. On est très...
Ouais, ça n'a pas toujours été, mais enfin, bon...
Peut-être.
Oui, oui.
Mais bon, après, c'est difficile aussi de voir le contexte.
revenons au financement. Bon. Donc, toi, t'aimerais bien...
Si tu veux. L'idée, c'est de se dire, de toute façon, comment faire pour participer à cet effort.
Voilà.
Tu vois. Donc,
pour ceux qui ont envie.
Pour ceux qui ont envie, c'est pas tout le monde, j'entends, mais il y en a qui ont envie. Ouais. C'est de se dire, bon, soit on explore la piste du livret A ou livret défense.
Mais ça, t'y crois, sérieusement?
Non.
Moi, bon, d'accord.
Non, non.
Mais c'est une piste.
Okay. C'est une piste. Moi, je pense plutôt qu'il est plus intéressant de regarder... Alors, comme tu disais, effectivement, il y a des problèmes aussi de morale, on va dire.
Voilà,
là, c'est un problème de marketing, en fait. Tu vois,
peut-être.
Voilà, de dire comment tu présentes le sujet.
Bah, les Américains, ils ont dit on va sur la Lune, puis c'était en fait des fusées. Deux coups, ça servait pour la Lune, et puis le reste des autres.
Bah oui, c'est des développements duals, effectivement. Oui, oui. Mais on retrouve ces choses aussi, en fait, dans. Bah, c'est ça qui est avec la BITD, toute la partie défense, c'est que tu as toujours des développements qui peuvent être duals. Il y a toujours un aspect militaire et potentiellement, tu as un aspect civil.
Bien sûr.
Et vice-versa, d'ailleurs.
Oui, oui.
Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire bon, bah, écoute, déjà, dans un premier temps, souvent, alors particulièrement en France, il y a ce problème d'actionnaires. On dit souvent, on n'aime pas parce que c'est les actionnaires qui sont engraissés, etc. Ok, très bien. Rien n'empêche d'essayer, en fait, de combiner une structure à but non lucratif, par exemple une association, de ne pas faire un financement direct. Tu vois, moi, l'idée sur laquelle je réfléchis et que je trouve qui est intéressante, c'est de mélanger une partie de fonds qui va chercher un rendement et une partie de fonds philanthropiques à travers une association.
D'accord.
Donc l'idée de l'association, c'est sympa parce que tu dis de toute façon, ça ne garde pas d'argent pour les actionnaires, il n'y a pas d'actionnaires.
Ouais.
Deuxièmement, quand tu donnes à une association, tu as une incitation fiscale qui est souvent beaucoup plus importante que lorsque tu investis dans un fonds, par exemple, qui investit dans l'innovation ou un fonds de proximité, tu vois. Là, c'est capé à 25%. Je crois que quand tu fais un don, ça peut aller jusqu'à 60%.
Oui, jusqu'à un plafond quand même.
Voilà, il y a un plafond.
Ouais.
Et deuxièmement, cette association, plutôt que de redistribuer, si tu veux, parce que bon, déjà, elle ne pourrait pas le faire parce que c'est des opérations de banque, elle pourrait parfaitement dire, ben, nous, on va investir dans de la recherche, tu vois, dans des thèmes en fait, qui sont soit liés à la défense, soit accessoires, mais qui tournent autour, qui gravitent autour, amener ces résultats de recherche à un stade brevetable, faire des royalties, trouver, c'est-à-dire prendre le risque en fait que la recherche n'aboutisse à rien.
Oui, oui, oui.
Tu vois, ôter ce poids-là des épaules des entreprises. Une fois qu'on a quelque chose qui tienne la route, tu peux aller ensuite vendre ou monétiser ces brevets en prenant des royalties. Et là, subtilité, tu vas dire, au lieu de retourner en fait un rendement financier comme si tu avais des actionnaires,
que j'allais te demander parce qu'il y a quand
non, même... tu vas garder une partie des fonds pour enclencher un cercle vertueux. Et là, tu pourrais très bien la redistribuer soit à un hôpital local, soit en fait à d'autres services publics qui ont structurellement besoin de fonds. Mmh. Où tu vois, de sorte qu'il y a un impact en fait sur la vie de tous les gens. Tu comprends ? Donc là, il n'y a pas d'actionnaire. Tu redistribues une partie des fonds dans l'économie réelle, là où il y en a besoin. Mmh. Et les fonds que tu gardes, eh ben, tu vas les réinvestir en recrutant de nouveaux chercheurs, etc. etc.
Parce que là, actuellement, les entreprises là, que tu vises, donc petites, moyennes, qui ont besoin de financement, donc c'est déjà qu'elles existent. Cet argent et ce financement, il servira à quoi ? À développer
à produire.
À investir dans...
Et oui. Ah, et oui, et oui, et oui. Mmh. C'est, il faut pouvoir tenir la production, si tu veux. Tout le problème, en fait, c'est pouvoir... plus j'en parle et plus j'en suis convaincu, en fait, c'est toujours la partie recherche et développement. À ce stade, pour les petites entreprises, si les recherches, les travaux de recherche n'aboutissent pas, tu n'as pas la surface financière nécessaire pour encaisser le coût.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, en revanche, de prendre, doter cette problématique de recherche, de la mettre dans une structure dédiée qui n'est pas là pour faire de l'argent, pourquoi pas ? Et surtout, en fait, permettre aux entreprises de continuer la production, alors à l'export comme pour satisfaire la commande publique, c'est ça. Et en fait, de les amener à croître et à se développer en entraînant dans leur sillage toutes celles qui ne sont pas à un stade de développement aussi avancé que le leur.
Mais alors, ça demanderait, puisque ça reste quand même l'investissement, même pour une petite entreprise, comme c'est de l'industrie globalement, hein,
ouais.
Ou du service logiciel, ingénieur, machin, technique et tout. Bon, ça, c'est pas, on produit pas des pains au chocolat. Donc, il faut beaucoup de monde dans dans cette sorte de coopérative.
Oui, il faut du monde. Enfin, il faut démarrer.
Mais alors, voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il y a le marché existe ?
Ah oui, je pense que. Ouais. Ce qui est intéressant, en fait.
Parce que s'il n'y a pas d'intérêt spécialement financier derrière. Grosso modo, si c'est bon, ok, participer à une aventure collective, très bien. Quand après, s'il y a des gains, il retombe à des... Très bien. Mais enfin, tu vois, c'est une démarche particulière.
Ah bah oui, bien sûr. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, quand tu regardes cette... Alors, je parle d'une association, parce que voilà, juste pour faire simple, qu'est-ce que ça te coûte ? C'est un travail, tu vas produire, en fait, de la connaissance. Donc, tu n'as pas à acheter... d'usines, de machines, d'employés, etc. Tu vas, par exemple, embaucher des thésards, des gens qui vont travailler déjà dans des laboratoires de recherche, sauf que tu vas les payer, toi. Mmh. Et tu vas bien mieux les payer pour éviter que ces gens-là partent aux US ou en Allemagne ou ailleurs ou en Angleterre. Donc, ton coût, c'est effectivement essentiellement un coût de recherche, de production d'informations, de la connaissance, pardon. Mmh. Et ton job, ça va être de monétiser cette connaissance ensuite pour enclencher ce cercle vertueux. T'as pas évidemment besoin de beaucoup comparé à une activité industrielle classique.
Oui.
Tu vois, c'est l'avantage d'être quelque chose de créer ou de fabriquer un bien qui est complètement dématérialisé.
Et alors, comment ça marche dans... Parce que là, ces difficultés de financement dont tu nous parles, là, tu parles de la France.
C'est la France.
Ouais,
oui,
voilà,
bien sûr.
Bon. Et alors, comment ça marche ? C'est vrai que tous les pays n'ont pas une industrie de défense du tout, mais genre en Allemagne, en Angleterre.
Alors, en Allemagne, ils ont un avantage, c'est que par exemple, nous en France, on a beaucoup de banques, essentiellement de très grosses banques, ouais, qui dépendent aussi beaucoup du dollar. Et ça, c'est le problème. Parce que quand tu dépends du dollar, tu tombes sous le coup des.
Tout de suite.
Mais oui, des.
Ouais. Parce qu'il y a des banques qui ne dépendent pas du dollar.
Beaucoup moins.
D'accord.
En Allemagne, ouais, ils ont beaucoup de banques de Länder. C'est beaucoup plus régional.
Plus, okay.
Et donc, ils sont beaucoup plus...
Ils sont moins connectés au grand marché.
Exactement. Et donc, ça c'est un avantage. Donc, elles peuvent plus facilement financer, en fait, les industries de défense allemandes. Nous, on a moins cette capacité-là, parce qu'on est beaucoup plus soumis au risque de réputation.
Et alors, toi, toujours pareil, si tu penses qu'il y a un problème de financement dans ce secteur-là, c'est que... Dans ta perspective générale, la défense est un des grands secteurs qui est amené, on le veuille ou non, à se développer, donc avoir besoin de financement, d'une part. Voilà. Pour la France, t'es sûr? Parce que, comme je te dis, il y a toujours problème de la réalité. Tu vois, on dit, déjà, on a déjà pas assez de médecins ou d'ingénieurs. Est-ce qu'on va avoir les personnes? Parce que si c'est pour faire des usines d'armement dans un autre pays...
Non, mais t'as raison. Mais, et ça aussi, c'est quelque chose qui a été parfaitement identifié dans ce rapport-là. Il y a aussi un manque de cerveau, quelque part. Il faut aussi inciter les gens à venir travailler, en fait, des gens qui font des recherches, à venir travailler dans ce secteur. Ouais. C'est pas évident. Donc là, il y a toute une problématique de formation, en fait, des chercheurs ou des gens qui vont venir travailler dans ces secteurs, qui doit être solutionnée.
Parce que là, actuellement, pour revenir au financement, n'importe quelle personne qui a de l'épargne, qui veut investir une partie de son épargne en action, elle se dit, comme toi, la défense, là, vu le contexte, ouais. Bon, ça me semble pas si risqué que ça. Il peut acheter les grandes entreprises françaises là qu'on a citées, mais en dessous il y a rien.
Pas encore. Il y a pas beaucoup de fonds en fait.
Même comme tu disais tout à l'heure, des genres de trucs pour les startups.
C'est difficile. Ouais. C'est vraiment très très difficile. C'est-à-dire que en dessous, évidemment, des mastodontes qui sont cotés, hein, tu peux acheter. Mais t'as plus grand chose de disponible. T'as des fonds, t'as une société de gestion de portefeuille qui a créé un fonds qui s'appelle RNR. Donc ça, moi, je l'ai repéré parce que c'est pas courant.
Ouais.
Donc qui investit effectivement spécifiquement dans ce secteur-là. Très intéressant. Mais après, comment tu fais, j'ai envie de dire? Parce que souvent, ce sont des entreprises qui sont pas cotées. Tu vois, donc il faudrait des véhicules comme les fonds d'investissement de proximité ou les fonds communs de placement dans l'innovation. Tout ce genre de véhicules qui existent, mais... on n'en a pas qui spécifiquement investissent dans ce secteur-là. D'où toute la problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises sont en fait adossées, obligées plutôt d'aller voir les banques pour se financer. Ce qui est dommage.
Ouais. Et s'il n'y en a pas, et qu'il peut y en avoir dans d'autres domaines, c'est, tu penses, les raisons un peu éthiques et morales qui font que ça coince plein de choses. Il y a d'autres raisons qui peuvent faire que, je sais pas moi, juste l'État, de toute façon, on va pas se mettre à fabriquer du matériel de défense sans que je m'en occupe, quoi.
Non, mais l'État a lancé des fonds d'investissement. Ouais. Donc, il y en a beaucoup, il y en a certains, enfin, je crois qu'il y en a deux essentiellement, dont un qui est géré par BPI France, qui investissent, eux, dans des plus petites entreprises.
D'accord.
Donc, ils commencent, en fait.
D'accord. Bah ouais.
Parce que c'est toute une chaîne, en fait, d'alimentation. Parce que même les Dassault ou les Safran, ils ont besoin, parce qu'il ne faut pas tomber sous le coup des réglementations ITAR et autres. Tu vois, donc, ils ont besoin de sous-traitants. Sous-traitants, il faut les accompagner.
Et parce qu'on entend souvent que c'est un secteur où il y a des marges énormes, vu que je te parle même pas des, il y a des marges énormes. Et donc, et même pour les sous-traitants, souvent ils sont les moins bien traités de de la ligne. Mais enfin, les marges, elles restent quand même supérieures. C'est des secteurs où.
Alors certainement que quand tu vends un avion de chasse, tu dois avoir des sacrées marges.
Ouais.
Mais enfin, il faut voir ce qui te reste après, parce que les coûts de développement de R&D dans ce genre d'entreprise, c'est aussi énorme. Et c'est toute la problématique. C'est tellement énorme qu'on a besoin de l'export pour les financer. Parce que la commande publique est trop étroite. Alors évidemment, quand tu es un petit sous-traitant de Dassault, t'as pas forcément les mêmes coûts de R&D. Mais je pense que proportionnellement, ça doit aussi jouer. Tu vois.
Concrètement, parmi tous ces produits, cette industrie de défense, cette base industrielle et technologique de défense, t'as des petits... entre guillemets, de petits produits préférés, le canon, le satellite, le rayon laser, le nucléaire.
Écoute, moi, ce que j'aime bien, alors là, je mets plus peut-être une casquette de juriste, on va dire, c'est toute la thématique des systèmes d'armes létaux autonomes. C'est les robots tueurs.
Ouais, c'est sympa aussi, ça.
Donc là, en fait, c'est toute la partie. Là, ce qui est intéressant, justement aussi, c'est de regarder juridiquement et réglementairement comment encadrer toute cette activité.
Ouais, parce qu'en France, en tout cas, on n'a pas le droit.
On s'est restreint
pour le moment.
Il y a beaucoup de travaux, de travaux juridiques et réglementaires qui sont en cours justement pour bien canaliser tout ça, au même titre que l'intelligence artificielle.
D'accord. Donc toi, tu miserais sur les robots tueurs.
Moi, oui. Voilà. Mais là, si tu veux, c'est plus...
Il est très sympathique, Steve, sinon.
C'est...
Non, mais s'il faudra venir le rencontrer, on va organiser une petite... Le robot, ben oui.
C'est plus parce que c'est ce côté un peu science-fiction que j'aime bien. Quoi.
Puis mais... c'est vrai qu'en plus, ils les font mignons, c'est pour quand tu les vois en vidéo, voilà, ça nous plaise. Ouais.
Non, mais t'as pas forcément, des armes létales, mais tu peux par exemple avoir des systèmes de surveillance ou des choses comme ça, tu vois, qui permettent de capturer du renseignement.
Donc toi, tout ce qui est drone, robot,
voilà, tout ce qui est drone, tout ça, voilà.
D'autonomie et d'intelligence artificielle.
Ouais, exactement.
Bon, il y a des trucs français là-dedans.
Ah oui, oui. Ben, au Salon du Bourget, il y a eu la présentation du premier drone 100% français. Hein.
Ah bah, c'est pas trop tôt, j'ai envie de te dire.
C'est un bel outil.
C'est un deltaplane, non c'est...
Ouais, non, c'est exactement. Ouais.
Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine. Tu pars en vacances, des vacances bien méritées.
Ah non, non, moi je partirai en vacances que début août.
Ah bah, moi je partirai avant. Hein. Donc, bon, enfin, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, enfin, juste avant. Salut Steve, merci.
Ciao David.